From the conference
ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales, les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission, sans autorisation écrite, est interdite.
Thomas S.
Monson, premier conseiller de la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Nous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Hinckley, qui préside cette conférence, m'a demandé à moi, Frère Monson, de diriger cette session. Nous adressons nos salutations et donnons notre bénédiction aux membres de l'Église, aux nombreux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, par Internet ou satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du tabernacle sous la direction de Craig Jessop et Mac Wilberg, avec Bonnie Goodliffe à l'orgue, ainsi que Linda Margetts. Le chœur ouvrira ce service religieux en chantant « Je vis un ange qui volait ». Jay Jensen, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Après la prière d'ouverture, le chœur chantera « Ô Jésus, quand je pense à toi ». Ensuite, Boyd K. Packer, président suppléant du Collège des 12 apôtres, nous adressera la parole. Après lui, nous entendrons David Bednar du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Roger Merrill, président général de l'École du dimanche, de Craig Cardon, des 70. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter.
Oh! Our Father who art in heaven.
Père qui es aux cieux, nous vénérons ton nom et te remercions de ces magnifiques conférences générales. Te remercions du magnifique déversement de ton esprit que nous avons ressenti et qui a touché notre vie, reconnaissant de la plénitude de l'Évangile, rétabli en ces derniers jours, des révélations qui montrent que les cieux sont effectivement ouverts, qui s'adressent à nous. Nous te remercions des Saintes Écritures et toutes les bénédictions qui en découlent, qui découlent de ton Église et ton Évangile sur la terre aujourd'hui. Nous te prions pour les personnes qui vont maintenant s'adresser à nous lors de cette dernière session. Veuille les aider à s'exprimer. Nous te prions de nous adresser ton esprit qui nous enseigne, non seulement par ce qu'ils vont dire, mais également par ce qu'ils ne vont pas dire. Que ton esprit nous touche dans nos besoins personnels et que tout ce qui sera fait et dit au cours de cette session et dans les autres sessions de la génération, de cette conférence générale, soit notre guide pour les semaines à venir, les mois à venir. Nous te remercions de ton Fils Saint et de l'influence qu'il a dans notre vie. Nous te prions, Père, de nous bénir au cours de cette session. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Le 26 juillet 1847, leur troisième jour dans la vallée, le deuxième avait été le jour du sabbat, Brigham Young, accompagné de quelques membres des douze, ainsi que d'autres frères, est monté sur un sommet à environ 2 kilomètres d'ici. Il trouvait que c'était un bon endroit pour dresser une bannière pour les nations. Ibusey Kimball portait un bandana jaune. Ils l'ont accroché à la canne de Willard Richards et l'ont agité en l'air comme une bannière pour les nations. Brigham Young a appelé le sommet le pic de la bannière. Ensuite, ils ont rejoint leurs chariots usés, les quelques affaires qu'ils avaient transportées sur 3000 kilomètres et leurs compagnons de voyage éreintés. Ce n'était pas ce qu'ils possédaient qui leur donnait de la force, mais ce qu'ils savaient. Ils savaient qu'ils étaient apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ils savaient que la prêtrise leur avait été transmise par des messagers angéliques. Ils savaient qu'ils avaient les commandements et les alliances pour offrir la possibilité du salut éternel et de l'exaltation à tout le genre humain. Ils étaient convaincus qu'ils avaient l'inspiration du Saint-Esprit. Ils se sont affairés à labourer des potagers, à construire des abris pour l'hiver qui approchait. Ils ont fait des préparatifs pour les autres qui étaient déjà dans les plaines et qui les suivaient, jusqu'à ce que ce nouveau lieu de rassemblement. Une révélation écrite 9 ans plus tôt leur commandait « Levez-vous, brillez, afin que votre lumière soit une bannière pour les nations, et que le rassemblement au pays de Sion et dans ses pieux soit pour la défense, le refuge contre la tempête et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur toute la terre. » Ils devaient être une lumière et une bannière. La bannière, dressée par révélation, se trouve dans les Écritures, dans la doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ. Les principes de la vie selon l'Évangile que nous suivons sont basés sur la doctrine et les valeurs sont en accord avec les principes. Nous sommes liés aux principes par alliance, administrés par l'intermédiaire des ordonnances de l'Évangile, par les personnes qui ont reçu l'autorité de la prêtrise et les clés de l'autorité. Ces frères fidèles n'étaient pas libres, et nous non plus, de modifier les principes ou de les ignorer. Nous devons les respecter. Il n'y a ni guérison ni de consolation dans le fait de dire tout simplement qu'ils ne comptent pas. Nous savons tous qu'ils comptent, car tous les hommes sont suffisamment instruits pour discerner le bien du mal. Si nous faisons de notre mieux, nous ne devons pas nous décourager. Lorsque nous ne sommes pas à la hauteur, ce qui est le cas, ou trébuchons, ce qui peut arriver, il nous reste toujours le remède du repentir et du pardon. Nous devons enseigner à nos enfants la morale pour éviter l'immoralité sous toutes ses formes. Les pouvoirs sacrés dont est doté leur corps physique ne doivent être employés qu'entre l'homme et la femme, légitimement mariés. Nous devons être totalement fidèles dans le mariage. Nous devons respecter la loi de la dîme. Nous devons nous acquitter de nos responsabilités dans l'Église. Nous devons nous rassembler chaque semaine pour la réunion de Sainte-Cène afin de renouveler les alliances et mériter les promesses par les prières simples et sacrées du pain et de l'eau. Nous devons honorer la prêtrise et respecter les alliances et les ordonnances. Ces frères sur le pic de la bannière savaient qu'ils devaient vivre de manière simple et avoir l'image du Christ empreinte sur leur visage. Ils comprenaient que les pieux devaient être une défense et un refuge, même si à cette époque, il n'y en avait pas un seul sur la terre. Ils savaient que leur mission était d'établir des pieux de Sion dans chaque pays sur la terre. Peut-être se demandaient-ils quelle sorte de colère ou de tempête qu'ils n'avaient pas déjà subie, ils allaient essuyer. Ils avaient connu l'opposition féroce, la violence et le terrorisme. Leur maison avait été brûlée. Ils avaient été dépossédés de leurs biens. On les avait chassés de leur maison encore et encore. Ils savaient, comme nous le savons aujourd'hui, que l'opposition n'aurait pas de fin, que sa nature change, mais qu'elle ne se termine jamais. Les difficultés que les premiers saints rencontreraient ne devait jamais prendre fin. Les nouvelles difficultés allaient être différentes de celles qu'ils avaient éprouvées en chemin, mais certainement pas moindres. Maintenant, il y a des milliers de pieux de Sion dans le monde entier. Il y a des millions de membres, et leur nombre continue de grandir. On ne peut l'empêcher, car c'est l'œuvre du Seigneur. Il y a maintenant des membres dans 169 pays, et ils parlent plus de 200 langues. Il y a des personnes qui vivent dans une peur inexprimable de ce que le monde nous réserve, à nous et à nos enfants. Il devient de plus en plus sombre du point de vue de la moralité et de la spiritualité. Si nous nous réunissons à l'Église, que nous vivons les principes simples de l'Évangile, que nous menons une vie droite, que nous respectons la parole de sagesse, que nous honorons notre prêtrise et nous acquittons de nos autres devoirs, alors nous n'avons pas à vivre dans la peur. La parole de sagesse est une clé pour être en bonne santé physique et pour recevoir la révélation. Abstenez-vous de thé, de café, d'alcool, de tabac et de drogue. Nous pouvons vivre où nous le voulons, faire de notre mieux pour gagner notre vie, modestement ou dans l'abondance. Nous sommes libres de mener notre vie comme nous l'entendons, assurés de l'approbation et même de l'intervention du Tout-Puissant, confiants d'être constamment guidés spirituellement. Chaque pieu est une défense, un refuge et une bannière. Un pieu a en lui tout ce qui est nécessaire au salut et à l'exaltation des personnes qui viennent dans sa sphère d'influence, et les temples sont de plus en plus proches. L'opposition ne cesse pas. Il y a de mauvaises interprétations et des déformations de ce que nous sommes et de notre histoire. Certaines sont inspirées par la méchanceté et opposées sans nul doute aux enseignements de Jésus-Christ et à son Évangile. Il arrive que des ecclésiastiques ou même des organisations religieuses s'opposent à nous. Ils font ce que nous ne ferons jamais. Nous n'attaquons, ni ne critiquons les autres, ni ne nous opposons à eux comme ils le font avec nous. Aujourd'hui encore, il y a des histoires absurdes, transmises et répétées tant de fois qu'on les croit. Par exemple, que les Mormons ont des cornes. Il y a des années, j'assistais à un colloque d'une université d'Oregon. Il y avait un évêque catholique, un rabbin, un pasteur épiscopalien, un prêtre évangéliste, un pasteur unitarien et moi. Le président de l'université, le docteur Bennett, nous accueillait pour un petit déjeuner. L'un d'entre eux m'a demandé avec quelle femme j'étais venu. Je leur ai dit que j'avais un seul choix. Pendant une seconde, j'ai pensé que j'étais le sujet de moquerie. Mais quelqu'un a demandé alors au prêtre catholique si lui aussi avait amené sa femme. Ensuite, on m'a posé une autre question. Est-il vrai que les Mormons ont des cornes? J'ai souri et répondu, je me peigne les cheveux pour qu'on ne les voit pas. Le docteur Bennett, qui était complètement chauve, a mis les mains sur sa tête et a dit, « Oh, vous ne ferez jamais de moi un mormon alors. » Le plus bizarre dans tout ça, c'est que des gens par ailleurs intelligents déclarent que nous ne sommes pas chrétiens. Cela montre qu'ils ne connaissent que très peu, voire rien du tout de nous. Voilà un vrai principe. On ne peut pas s'élever si on rabaisse les autres. Certaines personnes supposent que nos principes élevés sont un obstacle à la progression. C'est tout le contraire. Les principes élevés sont un aimant. Nous sommes tous enfants de Dieu, donc attirés par la vérité et le bien. Nous rencontrons la difficulté d'élever notre famille dans un monde où les nuages de la méchanceté s'obscurcissent. Certains de nos membres sont troublés et se demandent parfois s'il y a un endroit où l'on peut aller pour échapper à tout ça. S'il existe une autre ville, un État ou un pays qui soit sûr et où l'on puisse trouver refuge. La réponse est généralement négative. La défense et le refuge sont là où nos membres vivent. Le livre de Mormon contient cette prophétie. Oui, et alors l'œuvre du Père commencera parmi toutes les nations pour préparer le chemin par lequel son peuple pourra être rassemblé chez lui, au pays de son héritage. Les personnes qui quittent le monde et entrent dans l'Église, qui respectent les commandements, honorent la prêtrise et son pratiquant ont trouvé refuge. Il y a quelques semaines, au cours d'une réunion, Frère Robert Oakes, un des 7 présidents des 70, général d'armée retraité et commandant de l'armée de l'air de l'OTAN en Europe centrale, nous a rappelé l'accord signé par 10 pays à bord du cuirassé Missouri dans la baie de Tokyo le 2 septembre 1945, mettant un terme à la Seconde Guerre mondiale. Certains d'entre nous étaient en Asie à cette époque. Il a dit, « Je n'arrive pas à imaginer aujourd'hui qu'une réunion de la sorte puisse avoir lieu ou qu'un tel accord puisse être signé pour mettre fin à la guerre contre le terrorisme et la méchanceté dans laquelle nous sommes engagés. Ce n'est pas le même genre de guerre. Nous ne devons pas avoir peur, même dans un monde où les hostilités ne cessent jamais. La guerre d'opposition prophétisée dans les révélations continue aujourd'hui. Nous devons être heureux et positifs. Nous ne devons pas avoir peur. La peur est l'opposé de la foi. Nous savons que dans l'Église, l'activité se concentre dans la famille. Quel que soit l'endroit du monde où se trouvent les membres, ils doivent fonder une famille où les enfants sont accueillis et chéris comme un héritage de l'Éternel. Une famille de saints des derniers jours est une bannière pour le monde. Nous ne devons pas seulement adhérer aux principes les plus élevés, mais chacun de nous doit être une bannière, une défense et un refuge. Nous devons faire en sorte que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Toutes les luttes et les efforts des générations passées nous ont amené aujourd'hui la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, l'autorité de l'administrer et les moyens d'accomplir le ministère. Tout se rassemble dans cette dispensation de la plénitude des temps qui verra l'accomplissement de toutes choses et la préparation de la terre à la venue du Seigneur. Nous faisons autant partie de cette œuvre que ces hommes qui ont délié ce bandana jaune de la canne de Willard Richards et qui sont descendus du pic de la bannière. Ce bandana agité dans l'air a marqué le début du grand rassemblement dont il avait été prophétisé dans les Écritures anciennes et modernes. Nous parlons de l'Église comme de notre refuge, notre défense. On trouve sécurité et protection dans l'Église. Elle est centrée sur l'Évangile du Christ. Les saints de ces derniers jours apprennent à regarder en eux-mêmes pour voir le pouvoir rédempteur du Sauveur de l'humanité. Les principes de l'Évangile enseignés dans l'Église et que l'on apprend des Écritures deviennent un guide pour chacun d'entre nous et pour notre famille. Nous savons que le foyer que nous fondons et celui de nos descendants sera le refuge dont on parle dans les révélations. La lumière, l'exemple, la bannière pour toutes les nations et le refuge contre les orages qui se préparent. La bannière auprès de laquelle nous devons tous nous rassembler est celle de Jésus-Christ, le Fils unique du Père, dont c'est l'Église dont nous portons le nom et dont nous détenons l'autorité. Nous regardons vers l'avant avec foi. De nombreux événements se sont produits au cours de notre vie. Il s'en produira de nombreux autres qui mettront à l'épreuve notre courage et notre foi. Nous devons nous réjouir et être dans l'allégresse, car notre récompense sera grande dans les cieux. Nous ne devons pas nous excuser pour l'Église ou pour notre histoire. N'ayez point honte de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Défendez de grand cœur l'histoire de l'Église. Nous ferons face aux difficultés, car nous ne pouvons les éviter, et enseignerons l'Évangile de Jésus-Christ, et enseignerons le Christ disant qu'il est notre Sauveur, notre refuge et notre Rédempteur. Si un bandana jaune et usé était assez bon pour être une bannière pour le monde, alors des hommes ordinaires qui détiennent la prêtrise, des femmes ordinaires, des enfants ordinaires, dans des familles ordinaires, vivant l'évangile de leur mieux dans le monde entier, peuvent briller comme un étendard, une défense, un refuge contre tout ce qui sera déversé sur la terre. Et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ, et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Cette Église prospérera, elle triomphera, j'en suis absolument certain. Je rends ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Cet après-midi, je prie pour que le Saint-Esprit nous aide, vous et moi, pendant que je traite de principes importants de l'Évangile. L'une de mes activités favorites de dirigeant de la prêtrise est de rendre visite aux membres de l'Église chez eux. J'aime surtout aller voir des membres que nous appelons communément non-pratiquants et parler avec eux. Pendant les années où j'ai servi comme président de Pieu, je prenais souvent contact avec un évêque et je l'invitais à chercher par la prière le nom de personnes ou de familles à qui nous pourrions rendre visite ensemble. Avant de nous rendre dans un foyer, l'évêque et moi nous agenouillions et demandions à notre Père Céleste de nous guider et de nous inspirer, nous et les membres que nous allions rencontrer. Nos visites étaient tout à fait franches. Nous exprimions aux membres notre amour et notre plaisir d'être chez eux. Nous affirmions que nous étions serviteurs du Seigneur et qu'il nous envoyait en mission chez eux. Nous disions qu'ils nous manquaient, que nous avions besoin d'eux et qu'ils avaient besoin des bénédictions de l'Évangile rétabli. Et à un moment ou à un autre, au début de notre conversation, je posais souvent une question comme celle-ci. Voulez-vous bien nous aider à comprendre pourquoi vous ne participez pas activement aux bénédictions et aux programmes de l'Église? J'ai fait des centaines et des centaines de visites de ce genre. Chaque personne, chaque famille, chaque foyer, chaque réponse était différent. Mais au cours des années, j'ai relevé un thème commun dans beaucoup de réponses à mes questions. Souvent, on me répondait de la manière suivante. Il y a plusieurs années, un homme m'a dit quelque chose à l'école du dimanche qui m'a offensé, et depuis, je ne suis jamais retourné à l'église. Dans cette paroisse, personne ne m'accueillait ni ne me disait bonjour. J'avais l'impression de ne pas en faire partie. J'ai été blessé par la froideur de cette paroisse. Je n'étais pas d'accord avec le conseil que l'évêque m'a donné. Je ne mettrai pas les pieds dans cette église tant qu'il aura cet appel. Beaucoup d'autres causes d'offense ont été citées, allant de divergences d'opinion sur la doctrine chez les adultes à des moqueries, des taquineries et des exclusions par des jeunes. Mais le thème qui revenait était « J'ai été offensé par ». L'évêque et moi écoutions attentivement et sincèrement. Il arrivait que l'un de nous demande ensuite aux membres non pratiquants de parler de sa conversion et de son témoignage de l'Évangile rétabli. Pendant que nous parlions, nous avions souvent les larmes aux yeux lorsque ces braves gens se rappelaient le témoignage du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu et racontaient leurs expériences spirituelles antérieures. La plupart des non-pratiquants à qui j'ai rendu visite avaient visiblement un doux témoignage de la véracité de l'Évangile rétabli, mais ils ne participaient pas pour le moment aux activités et aux réunions de l'Église. Puis je disais quelque chose comme ceci. Dites-moi si j'ai bien compris ce qui vous est arrivé. Parce que quelqu'un vous a offensé, vous ne recevez pas la bénédiction de l'ordonnance de la Sainte-Seine. Vous vous êtes retiré de la compagnie constante du Saint-Esprit. Parce qu'un membre de l'Église vous a offensé, vous vous êtes coupé des ordonnances de la prêtrise et du temple sacré. Vous avez cessé de profiter de l'occasion de servir les autres, d'apprendre et de progresser. Et vous laissez des barrières qui empêcheront vos enfants, les enfants de vos enfants et les générations qui suivront de progresser spirituellement. Souvent, les gens réfléchissaient un moment et répondaient. Je ne l'avais jamais vu de cette manière. L'évêque et moi, nous lancions alors une invitation. Cher ami, nous sommes ici aujourd'hui pour vous dire que le temps est venu d'arrêter d'être offensé. Non seulement nous avons besoin de vous, mais vous avez besoin des bénédictions de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. S'il vous plaît, revenez maintenant. Quand nous croyons ou disons avoir été offensés, généralement nous disons que nous nous sentons insultés, maltraités, pris de haut ou pas respectés. Et certainement, il se produit dans nos rapports avec les autres des choses maladroites, embarrassantes, dénuées de principes et mesquines dont nous pourrions nous offenser. Mais en fin de compte, il est impossible à quelqu'un d'autre de vous offenser ou de m'offenser. En fait, il est faux à la base de croire que quelqu'un d'autre nous a offensés. C'est nous qui choisissons de nous offenser de quelque chose. Il ne s'agit pas d'une situation qui nous est infligée ou imposée par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Dans la grande division de toute la création divine, il y a des choses qui se meuvent et des choses qui sont mues. Nous, fils et filles de notre Père Céleste, avons reçu le don du libre arbitre, la faculté d'agir et de choisir de manière indépendante. Dotés du libre arbitre, vous et moi sommes actifs et nous devons, avant toute chose, nous mouvoir et ne pas être mus. Le fait de croire que quelqu'un ou quelque chose peut nous faire nous sentir offensés, nous mettre en colère, nous blesser ou nous rendre amers, limite notre libre arbitre et nous transforme en objets passifs. Mais en tant qu'être actif, nous avons, vous et moi, le pouvoir d'agir et de choisir comment répondre à une situation choquante ou blessante. Thomas B. Marsh, premier président du Collège des douze apôtres de cette dispensation, a choisi de s'offenser d'une affaire aussi anodine que de la crème de lait. Par contre, Brigham Young a été sévèrement et publiquement réprimandé par Joseph Smith le prophète, mais a choisi de ne pas s'offenser. Dans de nombreux cas, le choix de s'offenser est la preuve d'une maladie spirituelle beaucoup plus profonde et plus grave. Thomas B. Marsh s'est laissé mener et le résultat final en a été l'apostasie et la misère. Brigham Young a été actif, a exercé son libre arbitre, a agi en accord avec des principes corrects et est devenu un instrument puissant dans les mains du Seigneur. Le Sauveur est le plus grand exemple de la manière dont nous devons réagir aux événements et aux situations qui peuvent nous offenser. Et le monde, à cause de son iniquité, le jugera comme n'étant que néant. C'est pourquoi il le flagelle et il le souffre, et il le frappe et il le souffre. Oui, il crache sur lui et il le souffre, à cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. Par la force que nous donne le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons, vous et moi, avoir la bénédiction d'éviter les offenses et d'en triompher. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. La faculté de ne pas s'offenser peut nous paraître au-dessus de nos moyens, mais cette faculté n'est ni réservée, ni réduite aux grands dirigeants de l'Église tel Brigham Young. La nature même de l'expiation du Rédempteur et l'objectif de l'Église rétablie sont conçus pour nous aider à recevoir précisément ce genre de force spirituelle. Paul a enseigné aux saints d'Éphèse que le Sauveur a établi son Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Veuillez remarquer l'utilisation du mot actif « perfectionnement ». Selon Neil Maxwell, l'Église n'est pas une maison de repos bien équipée pour des gens déjà parfaits. Elle est un laboratoire d'apprentissage et un atelier où nous acquérons l'expérience en nous exerçant les uns sur les autres au processus continu du perfectionnement des saints. Frère Maxwell a aussi expliqué avec profondeur que dans ce laboratoire d'apprentissage des derniers jours que l'on appelle l'Église rétablie, les membres constituent la matière de base essentielle à la croissance et au développement. Une instructrice visiteuse apprend à s'acquitter de son devoir en servant et en aimant ses sœurs de la société de secours. Un enseignant sans expérience reçoit des leçons précieuses en instruisant des élèves qui le soutiennent et des élèves inattentifs, et devient ainsi un enseignant plus efficace. Un nouvel évêque apprend son office en recevant l'inspiration et en travaillant auprès des membres de la paroisse qui le soutiennent de tout leur cœur, même s'ils sont conscients de ses faiblesses humaines. Si nous comprenons que l'Église est un laboratoire d'apprentissage, cela nous aide à nous préparer à une réalité inévitable. D'une manière ou d'une autre, un jour, quelqu'un dans l'Église fera ou dira quelque chose qui pourra être considéré comme offensant. Cela arrivera certainement à chacun de nous et arrivera certainement plus d'une fois. Sans nécessairement avoir l'intention de nous blesser ou de nous offenser, les gens peuvent manquer d'égard et de tact. Ni vous ni moi n'avons de pouvoir sur les intentions ou le comportement des autres. Mais par contre, nous décidons de notre manière d'agir. Rappelez-vous que nous sommes, vous et moi, des êtres qui agissent, dotés du libre arbitre, et que nous pouvons choisir de ne pas nous offenser. Pendant une période dangereuse de guerre, Moroni, commandant en chef de l'armée néphite, et Pahoran, grand juge et gouverneur du pays, ont échangé des lettres. Moroni, dont l'armée souffrait du mauvais soutien du gouvernement, a écrit à Pahoran, sous forme de condamnation, et l'a accusé durement de manque d'égard, de paresse et de négligence. Pahoran aurait facilement pu en vouloir à Moroni de son message, mais il a choisi de ne pas s'offenser. Il a répondu avec compassion et a décrit une révolte contre le gouvernement dont Moroni n'avait pas connaissance. Puis il a répondu, « Voici, je te dis, Moroni, que je ne me réjouis pas de tes grandes afflictions. Oui, cela me peine l'âme. Et maintenant, dans ton épître, tu m'as censuré, mais cela n'a pas d'importance. Je ne suis pas fâché, mais me réjouis de la grandeur de ton cœur. » L'un des signes les plus grands de notre maturité spirituelle se manifeste par notre manière de réagir aux faiblesses, au manque d'expérience et aux comportements pouvant être offensants des autres. Une chose, un événement ou une expression peut nous offenser, mais nous pouvons, vous et moi, choisir de ne pas nous offenser et de dire comme Pahoran, cela n'a pas d'importance. Je conclus mon discours par deux exhortations. Exhortation numéro 1. Je vous exhorte à apprendre et à appliquer les enseignements du Sauveur sur les relations et les événements qui peuvent être considérés comme offensants. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il est intéressant de remarquer que l'exhortation à être parfait est immédiatement précédée du conseil sur la manière d'agir en réponse aux torts et aux offenses. Il est clair que les conditions rigoureuses qui conduisent au perfectionnement des saints comprennent des tâches qui constituent pour nous des épreuves et des défis. Si quelqu'un dit ou fait quelque chose que nous trouvons offensant, notre première obligation est de refuser de nous offenser, puis de communiquer en privé, honnêtement et directement avec l'intéressé. Cette méthode suscite l'inspiration du Saint-Esprit et permet de dissiper les malentendus et de comprendre les vraies intentions. Exhortation numéro 2. Beaucoup de gens et de familles qui ont le plus besoin d'entendre ce message sur le choix de ne pas s'offenser ne sont probablement pas avec nous à la conférence aujourd'hui. Je suppose que nous connaissons tous des membres qui restent loin de l'Église parce qu'ils ont choisi de s'offenser et qui seraient bénis s'ils revenaient. Voulez-vous bien trouver, en vous aidant de la prière, une personne à qui vous rendez visite et que vous inviterez à revenir aux réunions de l'Église avec nous? Vous pourrez lui donner une copie de ce discours, ou si vous préférez, vous pourriez discuter des principes que nous avons examinés aujourd'hui. Veuillez aussi vous rappeler que cette demande doit être faite avec amour et douceur, et non dans un esprit de supériorité, d'orgueil et de suffisance. Si nous répondons à cette exhortation avec foi au Sauveur, je témoigne que des portes s'ouvriront, que notre bouche sera remplie, que le Saint-Esprit témoignera de la vérité éternelle et que le feu du témoignage sera rallumé. Étant le serviteur du Seigneur, je fais écho aux paroles du Maître quand il a déclaré « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas offensés ». Je témoigne de la réalité et de la divinité d'un Sauveur vivant et de son pouvoir de nous aider à éviter et à surmonter les offenses. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Un matin, alors que j'étais jeune missionnaire à Beaumont, au Texas, mon collègue est tombé malade et avait besoin de se reposer. Suivant les conseils de notre président de mission pour une telle situation, j'ai tiré la chaise près de la fenêtre de notre appartement du 4e étage et j'ai commencé à lire le livre de Mormon. Bientôt, j'ai été plongé dans les Écritures et au bout d'un moment, je suis arrivé à Alma, chapitre 29, versets 1 et 2. Oh, que je voudrais être un ange et satisfaire le souhait de mon cœur, d'aller et de parler avec la trompette de Dieu, d'une voix à faire trembler la terre et d'appeler tous les peuples au repentir. Oui, j'annoncerai à toute âme, comme avec la voix du tonnerre, le repentir et le plan de rédemption, afin qu'elles se repentent et viennent à notre Dieu, afin qu'il n'y ait plus de tristesse sur toute la surface de la terre. Tandis que je méditais sur ces paroles d'Alma, elles m'ont pénétré profondément. Mon collègue et moi avions frappé à des centaines de portes à Beaumont, proposant de faire connaître notre message, mais avec un succès limité. Je me suis mis à imaginer ce que serait d'être un ange et de crier repentance avec une voix à faire trembler la terre. J'ai regardé par la fenêtre les gens qui allaient et venaient dans la rue en bas. J'ai imaginé l'effet que cela ferait d'être debout, brillant comme un ange, les mains levées et de parler avec la voix de tonnerre. Je voyais les bâtiments trembler et les gens tomber par terre. Dans de telles circonstances, j'imaginais qu'ils auraient peut-être le désir soudain d'écouter ce que j'avais à dire. Mais j'ai lu alors le verset suivant. « Mais voici, je suis un homme, et je pêche dans mon souhait, car je devrais me contenter des choses que le Seigneur m'a assignées. » Ramené à l'humilité, j'ai pris conscience que le Seigneur aime tous ses enfants et qu'il a un plan pour son œuvre. Mon travail consistait à faire ma part. L'humilité m'a aussi permis de comprendre autre chose. À ce moment précis, j'ai su que ce que je devais lire n'était pas de la fiction, mais bien réel. Calmement et paisiblement, tandis que je lisais, j'ai été littéralement rempli de lumière et de la certitude que cet Alma était un être réel, qu'il avait vécu et qu'il avait eu, lui aussi, le désir profond de faire connaître le message de l'Évangile aux autres. Si vous m'aviez demandé à ce moment-là, « Savez-vous que cela est vrai ?» J'aurais répondu, « Absolument. » À ce point, il m'est apparu clairement que je venais de recevoir un témoignage spirituel de la véracité du livre de Mormon. En réfléchissant à cette expérience et à de nombreux autres témoignages reçus depuis, j'en suis arrivé à mieux comprendre l'importance vitale de recevoir par l'Esprit. Souvent, nous nous concentrons, comme il se doit, sur l'importance d'enseigner par l'Esprit.
Mais nous devons nous souvenir que le Seigneur a considéré comme aussi important, voire plus important, de recevoir par l'Esprit. Recevoir de cette manière est un des principes de base de l'Évangile. Il est énoncé dans l'ordonnance par laquelle nous sommes confirmés membres de l'Église. Au cours de cette ordonnance, il nous est dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est une invitation formelle à agir, à recevoir ce grand don. En prenant plus conscience de ce principe, j'ai découvert que les Écritures regorgent de passages qui parlent de recevoir. Buck et Packer a dit « Aucun message ne figure plus souvent dans les Écritures, plus souvent de formes différentes que « demandez et vous recevrez ». Au centre même de notre épreuve terrestre se trouve le choix de recevoir Jésus comme le Christ. L'apôtre Jean a enseigné « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu ». Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne peut s'empêcher de se demander combien il y a autour de nous de dons et de bénédictions que nous ne recevons pas. Le Seigneur a dit, « À quoi sert-il à un homme qu'un don lui soit accordé s'il ne reçoit pas le don ? Voici, il ne se réjouit pas de ce qui lui est donné. » Il ne se réjouit de celui qui fait le don. Dans nos réunions de l'Église, dans notre étude personnelle et familiale des Écritures, et aujourd'hui même, tandis que nous écoutons les prophètes et les apôtres du Seigneur, certains d'entre nous recevront plus que d'autres. Pourquoi ? J'apprends que ceux qui reçoivent vraiment font au moins trois choses que les autres ne font peut-être pas. Tout d'abord, ils cherchent. Nous vivons dans un monde de spectacle, un monde de spectateurs. Sans que nous nous en prenions conscience, nous pouvons arriver aux conférences ou aller à l'église avec l'attitude de dire « Me voici, maintenant inspire-moi ». Nous devenons spirituellement passifs. Lorsque nous faisons tous nos efforts pour rechercher et recevoir l'Esprit, notre attention est moins centrée sur l'instructeur ou l'orateur et se porte plus sur l'Esprit. Rappelez-vous que recevoir est un verbe. C'est un principe d'action. C'est une expression fondamentale de la foi. Deuxièmement, ceux qui reçoivent ressentent. Bien que la révélation se manifeste dans le cœur et l'esprit, la plupart du temps, on la ressent. En général, tant que nous n'avons pas appris à prêter attention à ces sentiments spirituels, nous ne les reconnaissons même pas, ne reconnaissons pas l'esprit. Au cours d'une conversation récente que j'ai eue avec notre belle-fille, elle a avancé l'idée que nous pouvons aider même les jeunes enfants à remarquer ces sensations de l'esprit. Nous pouvons leur poser des questions telles « Que ressens-tu lorsque nous lisons ces écritures ensemble ? Que ressens-tu que te murmure l'esprit ?» Ces questions sont valables pour chacun de nous. Elles prouvent le désir de recevoir. Troisièmement, ceux qui reçoivent par l'Esprit ont l'intention d'agir. Comme l'a précisé Moroni le prophète, pour recevoir un témoignage du livre de Mormon, nous devons demander avec une intention réelle. L'Esprit enseigne que nous avons honnêtement l'intention de faire quelque chose à propos de ce que nous avons appris. En relisant ce que j'avais appris dans mon écrit dans mon journal pour comprendre et apprendre de l'expérience que j'avais faite en tant que missionnaire, j'ai découvert que bien que j'ai lu le livre de Mormon au préalable, ce qui est arrivé à Beaumont était différent parce que j'étais différent. Aussi inexpérimenté que je sois, cette fois au moins, j'avais sincèrement essayé de rechercher et de ressentir et mon intention était d'agir avec foi en fonction de ce que j'avais appris. Je sais maintenant que de tels témoignages sont à la portée de chacun de nous régulièrement si nous avons le désir de les recevoir. Le livre de Mormon est la parole de Dieu. Jésus est le Christ. L'Évangile a été rétabli et nous sommes vraiment en présence de prophètes et d'apôtres modernes. Je prie pour qu'aujourd'hui et toujours nous apprenions à mieux recevoir afin de nous réjouir vraiment à la fois du don et de celui qui fait le don. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a bien des années, notre jeune famille a emménagé dans une maison qui se trouvait alors dans le quartier le plus récent de notre collectivité et qui donnait sur les montagnes à l'est. Un lundi matin, alors que je finissais de m'habiller et que je me dépêchais pour partir au travail, notre fils de 6 ans, Craig, est entré dans la chambre en tenant par la main son frère de 4 ans, Andrew. L'air décidé, Craig a levé les yeux vers moi et m'a dit, « Papa, hier à la primaire, mon instructrice nous a dit que si on a la prêtrise, on peut dépasser des montagnes. » Je l'ai dit à Andy, et il ne me croit pas. « Tu as la prêtrise, hein, papa ?» Puis, tournant son petit corps et désignant la fenêtre, il m'a de nouveau regardé dans les yeux et a dit, « Tu vois les montagnes là-bas ? Montre-lui, papa. »
What followed was
suivi une belle expérience.
How grateful I was.
Comme j'étais reconnaissant d'avoir de jeunes fils qui commençaient leur vie d'apprentissage de la prêtrise. Le Seigneur a réellement enseigné aux hommes à qui il avait donné la prêtrise que par la foi les montagnes seraient transportées. Et il y a des exemples documentés de ce fait. J'espère apporter une meilleure compréhension de cet aspect de la doctrine de la prêtrise qui rapproche les personnes de Dieu, leur donnant ainsi la possibilité de devenir comme lui et de vivre éternellement en sa présence. Ce point de doctrine concerne à la fois les fils et les filles de Dieu. Je prie donc pour ce que je vais vous dire soit utile aux unes et aux autres. En 1823, l'ange Moroni est apparu à Joseph Smith et lui a cité plusieurs passages d'Écriture, dont celui-ci de Malachie. Voici, je vous révélerai la prêtrise par la main d'Élie le prophète. Cette première référence à la prêtrise écrite dans cette dispensation annonçait un processus qui allait se dérouler dans les décennies à venir. En 1829, Jean-Baptiste a rétabli la prêtrise d'Aaron, et peu après, Pierre, Jacques et Jean ont rétabli la prêtrise de Melchisédek. En 1836, Moïse et Élias ont rétabli les clés du rassemblement d'Israël et de la dispensation de l'Évangile d'Abraham. Puis, Élie a rétabli les clés de scellement. La révélation conclut ensuite s'adressant au prophète Joseph. C'est pourquoi les clés de cette dispensation sont remises entre vos mains. Une fois l'autorité, les offices et les clés de la prêtrise de nouveau sur la terre en 1841, le Seigneur a montré aux prophètes l'importance de bâtir des temples dans lesquels il pourrait mettre à la disposition de ses enfants les ordonnances de la prêtrise destinées à préparer ses fils et ses filles à retourner en sa présence. Il a déclaré, « Que cette maison soit bâtie, afin que je puisse y révéler mes ordonnances à mon peuple, car je daigne révéler des choses qui ont trait à la dispensation de la plénitude des temps. » Plus tôt, à Kirtland, le Seigneur a enseigné au prophète Joseph le serment à l'alliance de la prêtrise et lui avait expliqué à quelles conditions les bénédictions promises se réalisent. Plus tard, à nouveau, la compréhension de la portée et du pouvoir éternel de la prêtrise pour bénir tous les enfants de Dieu fidèles dans cette vie ou dans celle à venir a grandi. La prêtrise est donnée aux fils de Dieu, mais ses filles font aussi partie de son peuple à qui il révèle les ordonnances de sa prêtrise. Et la bénédiction promise de tout ce que le Père a est disponible aux hommes et aux femmes qui font preuve de foi en Jésus-Christ, qui reçoivent les ordonnances et qui endurent avec foi jusqu'à la fin. C'est pourquoi le pouvoir de la divinité se manifeste dans ces ordonnances. L'ordonnance suprême du temple n'est accessible qu'à un homme et une femme quand ils sont scellés l'un à l'autre, formant une cellule familiale éternelle. C'est en vertu de cela, ainsi que de toutes les autres ordonnances de la prêtrise, que les familles de la terre seront bénies. Cette ordonnance de scellement est si essentielle au dessein du Seigneur qu'il a promis cette bénédiction dans la vie à venir aux fidèles qui, involontairement, n'ont pas pu être scellés dans cette vie. Aucune autre doctrine dans toute la religion ne confirme mieux l'amour qu'il porte de manière égale à ses fils et à ses filles. La prêtrise a aussi le pouvoir de changer notre nature même. Comme Paul l'a écrit, tous ceux qui sont ordonnés à cette prêtrise sont rendus semblables au Fils de Dieu. Cette ressemblance ne se manifeste pas seulement dans l'ordination et l'ordonnance, mais aussi dans le perfectionnement du cœur de chacun qui se produit dans la suite des temps, alors que nous nous rendons aux persuasions de l'Esprit Saint et nous dépouillons de l'homme naturel. Lorsqu'un homme est ordonné à la prêtrise de Melchisédek, il entre dans un ordre par lequel il peut être raffiné en servant les autres, particulièrement au sein de sa famille, et béni par la compagnie constante du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a tous instruits quand il a enseigné que l'iniquité met un terme au pouvoir ou à l'influence céleste des détenteurs de la prêtrise, alors que la droiture les renforce. Il a indiqué que les qualités qui épanouissent considérablement l'âme sont la persuasion, la longanimité, la gentillesse, la douceur, l'amour sincère, la bonté et la connaissance pure. Puis, il a ajouté ces paroles instructives. Que tes entrailles soient également remplies de charité envers tous les hommes et envers les frères à la foi. Et que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. Et la doctrine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux. Il est significatif qu'après nous avoir invités à avoir de la charité envers tous les hommes, le Seigneur ait ajouté la phrase « et envers les frères en la foi ». Pourquoi? Le terme « tous les hommes » n'inclut-il pas les frères en la foi? Réfléchissez aux implications contenues dans cette expression ajoutée et comprise comme signifiant plus précisément « nos frères de notre maison en la foi ». Malheureusement, certains membres de l'Église font montre de plus de charité envers les personnes qui ne sont pas membres de leur famille qu'envers leurs conjoints et leurs enfants, leurs frères et leurs sœurs et leurs parents. Ils peuvent montrer une gentillesse feinte en public, alors qu'en privé, ils sèment et cultivent des graines de discorde, abaissant les personnes qui devraient être les plus proches d'eux. Cela ne devrait pas être. Puis le Seigneur a parlé des pensées qui sont ornées, embellies et protégées, sans cesse par la vertu. Ces pensées ont le péché en horreur. Elles permettent que nous disions « oui, oui, non, non ». Elles sont dénuées de ruse. Elles voient le bien et le potentiel des autres, sans s'arrêter à leurs inévitables imperfections. Le verset se termine par une belle référence instructive à un processus de distillation pour mieux comprendre l'application de ces principes dans le perfectionnement de notre vie personnelle. Imaginez deux verres d'eau ayant la même apparence extérieure, placés dans une pièce au taux d'humidité élevé. Après un certain temps, l'eau commence à se condenser sur les parois de l'un des verres parce qu'il est à une température différente en raison d'une préparation antérieure qui n'était pas visible de premier abord, alors que l'autre verre reste froid et inchangé. Sans utiliser la force ou la contrainte, l'humidité peut affluer sur le verre alors que l'autre ne reçoit rien. De la même façon, les qualités qui épanouissent considérablement l'âme, la charité à l'égard d'autrui, particulièrement envers les membres de notre famille, et les pensées ornées de vertu règlent notre température spirituelle pour permettre à la doctrine de la prêtrise de se distiller sur notre âme. C'est ainsi que la prêtrise, sous l'influence du Saint-Esprit, rapproche les personnes de Dieu par l'ordination, les ordonnances et le perfectionnement de leur nature personnelle, donnant ainsi aux enfants de Dieu la possibilité de devenir comme lui et de vivre éternellement en sa présence, ce qui est une œuvre plus glorieuse que de déplacer les montagnes. Je conclus en faisant mienne la prière de Parley P. Pratt. Comme à l'aube, la rosée rafraîchit la terre enfin, l'Évangile dans ma vie vient porter l'Esprit divin. Ô Seigneur, vois tes fidèles accomplir ta loi. Verse d'en haut la rosée de la vie et de la foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Vrai disciple du Seigneur ». Ensuite, Don Clark, Keith Edwards et Larry Gibbons nous adresseront la parole. Après leur discours, nous entendrons Jeffrey Holland du Collège des Douze Apôtres. Chœur et l'assemblée vont maintenant chanter.
This is the 176th
semi-annual. Vous assistez à la 160e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
My grandfather, Alma Benjamin Larson, was only 34 years old when he woke up one morning and noticed that he had problems seeing. Shortly thereafter, he lost his sight entirely. Grandfather had served a mission, been a faithful member of the church. He was a farmer, had a wife and three children, and he could not imagine life.
Mon grand-père, Alma Benjamin Larson, avait que 34 ans quand, en se levant un matin, il s'est rendu compte qu'il avait des difficultés à voir. Peu de temps après, il a perdu complètement la vue. Mon grand-père avait fait une mission et était un membre fidèle de l'Église. Il était paysan, il avait une femme et trois enfants. Aussi, il n'arrivait pas à s'imaginer de vivre sans voir. Sa femme et ses jeunes enfants ont dû désormais porter le fardeau supplémentaire des travaux de la ferme. Et l'argent est venu à manquer. Pendant cette période de ténèbres physiques, de nombreuses personnes sont devenues des instruments entre les mains de Dieu afin d'aider mon grand-père aveugle. En 1919, il s'est produit une expérience spirituelle qui a profondément marqué la famille. C'était une année de grandes difficultés financières pour tous les habitants de la ville de grand-père. Les fermes étaient saisies et les magasins faisaient faillite. Sa ferme a été mise sous hypothèque, puis il a reçu un avis disant qu'il devait payer 195 $ s'il voulait prolonger d'une année son hypothèque. C'était pour lui le coup de grâce. C'était presque tout le monde se trouvait dans la même situation et il lui semblait impossible de se procurer autant d'argent. Même en réunissant tous les biens de la ferme, les chevaux, les vaches et l'outillage, il n'en aurait pas tiré plus de 195 $. Grand-père a demandé à un voisin d'abattre deux ou trois vaches qu'il a vendues avec d'autres produits. Il avait fait crédit à ses voisins à la condition qu'ils le remboursent à la fin de l'année, mais aucun de ses débiteurs n'a pu le faire. La situation financière de la famille était désespérante. Dans ce journal, grand-père raconte « Je n'oublierai jamais cette nuit froide, juste avant le Noël de 1919. Il semblait qu'on allait perdre la ferme. Gladys, ma fille, m'a glissé un papier dans la main en disant « C'est arrivé aujourd'hui au courrier. » Je l'ai porté à ma femme et lui ai demandé de quoi il s'agissait. Voici ce que ma femme m'a lu. « Cher frère Larsen, j'ai pensé à vous toute la journée. Je me demande si vous avez des problèmes financiers. » Si vous en avez, j'ai 200 dollars dont vous pouvez disposer. La lettre était signée Jim Drinkwater. Jim était un homme de petite taille, infirme, et de l'avis de tous, il était la dernière personne sur Terre à avoir tant d'argent. Je suis allé chez lui le soir même et il m'a dit, « Frère Larsen, j'ai reçu un télégramme du ciel ce matin si bien que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à vous de toute la journée. J'étais sûr que vous aviez des difficultés financières. Frère Drinkwater m'a donné 200 dollars. Nous avons ensuite envoyé 195 dollars à l'organisme hypothécaire. Puis avec les 5 dollars restants, nous avons acheté des bottes et des vêtements aux enfants. Le Père Noël est bien, bel et bienvenu cette année-là. Mon grand-père rend ensuite son témoignage. Le Seigneur ne m'a jamais laissé tomber. Il a touché le cœur d'autres personnes comme il a touché le cœur de frère Drinkwater. Je rends témoignage que la seule sécurité que j'ai trouvée, ça a été en m'efforçant de respecter les commandements du Seigneur et de défendre et de soutenir les autorités de l'Église. J'ai souvent pensé à Jim Drinkwater et je me suis demandé comment il avait fait pour avoir la confiance du Seigneur. Jim était un homme de petite taille, un infirme en qui Dieu a placé sa confiance afin d'aider un fermier aveugle croulant sous une lourde hypothèque et père de 3 enfants. J'ai beaucoup appris de l'expérience qu'a eue mon grand-père avec Jim Drinkwater. J'ai appris que l'on n'a pas besoin d'avoir un appel dans l'Église, d'être invité à aider, ni même d'être en bonne santé pour devenir un instrument entre les mains de Dieu. Comment pouvons-nous donc devenir des instruments entre les mains de Dieu? Les prophètes et les Écritures nous l'enseignent. Tout d'abord, nous devons avoir de l'amour pour les enfants de Dieu. Quand le docteur de la loi demande au Sauveur, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Le Sauveur répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Joseph F. Smith a dit, « La charité ou l'amour est le plus grand principe qui existe. » Si nous sommes en mesure de prêter main forte à l'opprimé, d'aider les personnes qui sont abattues et affligées, d'élever et d'améliorer la condition de l'humanité, alors c'est notre mission de le faire, car cela constitue une partie importante de notre religion. Lorsque nous avons de l'amour pour les enfants de Dieu, il se présente des occasions de les aider sur le chemin qui les ramène en sa présence. L'expérience missionnaire des fils de Mosiah nous aide aussi à comprendre comment devenir des instruments entre les mains de Dieu. Et il arriva qu'ils voyagèrent de nombreux jours dans le désert. Nous devons avoir le désir de voyager. Les fils de Mosiah avaient le désir de sortir de leur cadre habituel et de faire quelque chose d'inconfortable. Si Amon n'a pas voulu se rendre dans un pays étranger, dont les habitants étaient sauvages, endurcis et féroces, ils n'auraient jamais trouvé et aidé Lamoni et son père, et de nombreux Lamanites n'auraient jamais rien su de Jésus-Christ. Dieu nous demande de voyager, de faire des missions, d'accepter des appels, d'inviter quelqu'un à l'église ou d'aider une personne dans le besoin. En tentant d'aider leurs frères Lamanites, les frères de Mosiah ont également appris l'importance du jeûne et de la prière. En effet, ils jeûnèrent beaucoup et prièrent beaucoup afin que le Seigneur accordât qu'une part de son esprit les accompagnât et demeurât avec eux, afin qu'ils fussent un instrument entre les mains de Dieu pour amener, si c'était possible, leurs frères, les Lamanites, à la connaissance de la vérité. Voulons-nous réellement être des instruments entre les mains du Seigneur? Si tel est le cas, ce désir imprégnera nos prières et sera l'objet de nos jeûnes. Après avoir perdu la vue, mon grand-père a jeûné et prié pour que le Seigneur l'apaise s'il devait rester dans l'obscurité. Il a déclaré que quasiment dans l'heure qui a suivi, son esprit avait été éclairé et le nuage de ténèbres s'était dissipé. Il pouvait à présent voir un nouveau voir, non pas avec ses yeux physiques, mais avec ses yeux spirituels. Plus tard, Alma Benjamin Larsen a été appelé à être patriarche. Appel qu'il a détenu pendant près de 32 ans. Comme tous les fils de Mosia, mon grand-père a jeûné, prié, et grâce à cela, il a pu bénir des milliers d'enfants de Dieu. Tout comme Jim Drinkwater et mon grand-père, nous devons également être sensibles au murmure du Saint-Esprit. Car si nous avons le désir de devenir un instrument entre les mains de Dieu, nous pouvons recevoir la révélation. Le prophète Alma, le jeune, nous parle de révélations qu'il a eues en ces mots. Je sais que le Seigneur m'a commandé et j'y mets ma gloire. Oui, c'est là ma gloire, de pouvoir peut-être être un instrument entre les mains de Dieu pour amener quelque âme au repentir, et c'est là ma joie. Alma avait reçu la révélation de ce qu'il devait faire. J'ai un petit carnet sur moi où j'écris les impressions et les pensées que je reçois de l'Esprit. Il n'est pas très beau. Il s'use et je dois le remplacer de temps en temps. Quand des pensées me viennent à l'esprit, je les écris et j'essaie d'agir en conséquence. Je me suis rendu compte de nombreuses fois qu'en faisant ce qu'il y avait sur ma liste, je répondais à la prière de quelqu'un. Il m'est aussi arrivé parfois de ne pas faire une chose qui était sur ma liste et de m'apercevoir plus tard qu'il y avait quelqu'un que j'aurais pu aider et je ne l'ai pas fait. Lorsque nous recevons l'inspiration pour un enfant de Dieu, si nous écrivons nos pensées et nos sentiments et que nous agissons en conséquence, Dieu aura davantage confiance en nous et nous donnera davantage de possibilités d'être des instruments entre ses mains. Frère Faust a dit, vous pouvez être des instruments puissants entre les mains de Dieu pour contribuer à réaliser cette grande œuvre. Vous pouvez faire pour quelqu'un quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Dieu chérit les personnes qui aident ses enfants. J'exhorte chacun d'entre nous à suivre le conseil des prophètes, à devenir un instrument entre les mains de Dieu et à être l'un de ceux qu'il chérit parce que nous aurons aidé ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir has sung Jesus, the
le chœur a chanté. Dans le livre de Mormon, Néphi prophétise en termes messianiques. Et le monde, à cause de son iniquité, le jugera comme n'étant que néant. C'est pourquoi il le flagelle et il le souffre. Et il le frappe et il le souffre. Oui, il crache sur lui et il le souffre à cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. Le Sauveur a souffert de manière extrême et atroce pour nous, afin de nous éviter d'avoir à souffrir comme il a souffert. Cependant, la souffrance fait partie de la vie et il y en a peu qui échappent à son étreinte. Étant donné que c'est quelque chose que nous avons tous vécu, que nous vivons, que nous vivrons, les Écritures indiquent qu'il y a des leçons spirituelles à tirer si nous envisageons la souffrance, la douleur et le chagrin en nous concentrant sur le Christ. Paul a écrit jadis que nos souffrances peuvent nous donner l'occasion de mieux connaître le Sauveur. Il a écrit aux Romains, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Maintenant que personne ne recherche les épreuves et la souffrance, car ce n'est pas ce qui est enseigné, en fait, c'est l'attitude avec laquelle nous considérons nos difficultés, nos épreuves, qui nous permet de mieux connaître le Sauveur. L'expérience nous enseigne que la souffrance fait partie de la vie et qu'elle se présentera sans qu'on la recherche. Voici un exemple personnel. Il y a quelques années, quand notre fils aîné avait à peu près un an, j'ai été la cause de souffrances qui ne semblaient pas nécessaires. Ma femme et moi étudions à l'université. Un soir, je jouais avec mon petit garçon par terre. J'ai quitté la pièce pour étudier et en fermant la porte derrière moi, mon fils, qui voulait probablement m'attraper, a levé la main derrière sa tête et a mis ses doigts dans la porte, du côté des charnières. En refermant la porte, je l'ai blessé assez gravement au doigt. Nous sommes allés en hâte aux urgences, où on lui a fait une anesthésie locale. Ensuite, un médecin est venu et nous a assuré que c'était guérissable. Presque paradoxalement, le seul désir qu'avait mon fils d'un an, à ce moment-là, était d'être dans les bras de son père. Tandis qu'il me voyait, il résistait à toutes les tentatives de préparation en vue de l'opération délicate. Quand j'ai quitté la pièce, il s'est calmé et le médecin a pu commencer. Durant l'intervention, j'étais inquiet et je passais la tête par la porte ouverte pour voir comment tout se passait. Lorsque je regardais furtivement et silencieusement par la porte qui se trouvait derrière lui, ainsi que de côté, mon fils soulevait la tête, comme s'il avait un sixième sens, et se tordait le cou pour voir si j'étais là. À un moment donné, tandis que je le regardais avec son bras en l'air, la tête en arrière, cherchant son père, j'ai pensé à notre fils, aux mains tendues et clouées à une croix, qui cherchait son père. Alors les paroles suivantes me sont venues à l'esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce moment traumatisant de ma vie a soudain revêtu un caractère très sacré. Les Écritures regorgent d'exemples d'hommes et de femmes qui semblent s'être toujours concentrés sur le Christ. Des gens qui, quelles que soient les blessures ou les injustices que la vie leur a imposées, sont restés fidèles et disposés à endurer. Je veux parler de personnes comme Abraham, qui a été dépossédé du pays de son héritage et à qui l'on a commandé de sacrifier Isaac, ou de Joseph, que ses frères ont vendu comme esclave, qui a été emprisonné en raison de sa vertu et de sa chasteté, et qu'un serviteur sans égard a laissé croupir en prison, de Ruth, qui est devenue veuve à un jeune âge et qui s'est retrouvée sans ressources, mais qui est néanmoins restée fidèle à sa belle-mère, mais aussi des trois Néphis, des deux Alma, et bien sûr du prophète Joseph. Ce que je trouve particulièrement remarquable, c'est la persévérance de Néphi. Il a été sans cesse victime de la colère de ses frères. Il a été lié pendant 4 jours sur le bateau en route vers la terre promise. Il ne pouvait pas bouger, mais le 4e jour, quand il semblait qu'ils étaient sur le point d'être engloutis dans l'océan, les frères, craignant de périr, détachèrent les liens qu'il avait au poignet, et voici, ceux-ci étaient extrêmement enflés, et ses chevilles, elles aussi, étaient très enflées et très douloureuses. Néanmoins, il se tourna vers son Dieu et le loua toute la journée et ne murmura pas. Rappelez-vous toutefois que c'est Néphi qui a écrit, il le flagelle et il le souffre. Et il le frappe, et il le souffre. Oui, il crache sur lui, et il le souffre. Néphi comprenait. Bien que la raison de la souffrance ne soit pas toujours claire sur le moment, Joseph Smith, le prophète, a eu une expérience d'une spiritualité singulière tandis qu'il croupissait dans la prison de Liberty. Le Seigneur l'a réconforté en lui disant, « Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps, et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut, tu triompheras de tous tes ennemis. Sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui ? Étant donné que nous sommes amenés à subir des souffrances, que parfois l'on nous inflige volontairement ou par négligence, nous sommes placés dans une situation exceptionnelle. Si nous le choisissons, cela peut nous permettre de prendre davantage conscience de ce que le Fils de Dieu a souffert. Bien qu'Alma nous dise que le Christ a souffert tout ce que nous tous allions devoir souffrir pour savoir comment nous secourir, l'inverse peut être également vrai, c'est-à-dire que notre souffrance peut nous donner une perception nouvelle de la profondeur et de l'ampleur de son sacrifice expiatoire. En méditant sur cet événement, celui de mon propre fils, qui s'est produit il y a tant d'années, J'ai eu une perception nouvelle et peut-être même une compréhension plus profonde de la grandeur et de la splendeur de l'expiation. Je mesure davantage ce qu'un père a permis, que son fils subisse pour moi et pour chacun d'entre nous. J'ai eu une nouvelle perception de l'ampleur de l'expiation. Je ne peux même pas m'imaginer permettre de plein gré que mon fils souffre dans cette moindre mesure, tandis que notre Père, lui, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien que nous n'en ayons jamais discuté, mon fils, lui aussi, aura l'occasion d'apprécier le passage où le Sauveur explique « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Bien que je ne dise pas que quoi que ce soit ici-bas se rapproche de l'expiation, la cicatrice sur la main de mon fils est toujours devant ses yeux et elle lui donne l'occasion, s'il veut bien la saisir, de se rappeler grâce à elle les cicatrices dans les paumes du Sauveur causées par nos péchés. Il a la possibilité de comprendre à sa façon l'amour que le Sauveur a pour nous car il a accepté d'être blessé, meurtri, brisé, et déchiré pour nous. Bien que la souffrance puisse nous donner une nouvelle perspective, nous devons faire attention à ne pas comparer, mais être reconnaissants. Il y aura toujours d'infinies différences entre nous et le Sauveur. Voici ce qu'il a dit à Pilate. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné. Ce qui nous rappelle à nouveau que son sacrifice était volontaire. Nous ne pourrons jamais supporter l'atrocité ou l'intensité de sa souffrance. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Mais comme Néphi, nous pouvons être davantage reconnaissants de ce qu'il a fait. Nous pouvons sentir son esprit nous secourir et nous pouvons le connaître intimement. Et c'est là, la vie éternelle, c'est qu'il le connaisse. Je rends témoignage que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que grâce à sa souffrance et à son expiation, nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés et obtenir la vie éternelle. Je rends témoignage de sa bonté et de son amour. Il est le Fils unique du Père. Il a fait la volonté du Père en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
As someone trained in medicine,
formé dans le domaine de la médecine, ma compréhension de la complexité, de l'ordre et de l'harmonie du corps humain renforce ma foi en un Créateur. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a créés. Si l'on ne croit pas en un Créateur, on croit que la vie s'est créée d'elle-même, spontanément, par accident. Je n'y crois pas. Et si Dieu nous a créés, il n'est pas logique qu'il nous laisse ensuite à nous-mêmes. Il est logique qu'il nous guide. Ce guide nous a été donné sous la forme de ce que nous appelons les commandements. Les commandements ne sont pas donnés pour nous charger ou nous restreindre. Ce sont des balises données par un Père céleste plein de sagesse pour nous protéger des ennuis, pour nous amener à une plénitude de bonheur ici-bas et pour nous ramener sains et saufs à notre foyer auprès de Lui. Dans un discours prononcé en 1994 à l'université Brigham Young, Harold Kushner, rabbin, a dit « Je suis un juif orthodoxe et j'observe les lois alimentaires de la Bible. Je soupçonne que la plupart d'entre vous supposent que je me dis toute la journée « Ah là là, ce que j'aimerais manger, c'est côte de porc. Mais ce vieux Dieu méchant ne veut pas me laisser faire. » Ce n'est pas le cas. En fait, toute la journée, je me dis, n'est-ce pas merveilleux? Il y a 5 milliards d'humains sur la planète, et Dieu se soucie de ce que je mange au déjeuner et du langage que j'emploie. Cela ne me rabaisse pas qu'on me dise qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire parce qu'elles sont mal. Au contraire, cela m'élève. Comme l'a dit Henry B. Eyring, au cours de la première formation mondiale des dirigeants, le Seigneur nous a donné ses principes de dignité. Il ne l'a pas fait pour nous tenir à distance de lui, mais pour nous attirer à lui. Mes frères et sœurs, le respect des commandements fait toute la différence dans la vie et dans la suivante. Pour être dignes du royaume céleste et de la joie qui y règne, nous devons respecter les commandements. La seule norme qui vaille la peine pour l'un de nous est une norme céleste. Dans les Doctrines et Alliances, nous lisons « Car celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste. » C'est aussi simple que cela. Mais nous n'avons pas à attendre pour connaître la joie céleste. Le respect des commandements nous apporte de la joie immédiatement. Je crains que trop d'entre nous ne soient pas pleinement engagés à vivre tous les commandements. Ces saints ne sont pas disposés à abandonner complètement le monde. Ils s'y accrochent. Au cours de la session de la prêtrise d'une conférence régionale, nous avons chanté le cantique ancien d'Israël. Le refrain contient le vers « Ô Babylone, à toi nos adieux ». Après le cantique, Neil Maxwell, dans son discours, a exprimé que dire adieu à Babylone est effectivement l'une de nos difficultés, que trop d'entre nous aiment y garder une résidence secondaire. Nous ne pouvons pas garder un pied dans l'Église et un pied dans le monde. L'une des raisons en est que le monde et l'Église s'éloignent rapidement l'un de l'autre. Nous allons perdre l'équilibre. Nous savons que nul ne peut servir deux maîtres. Je crains que certains ne soient en train de servir le Seigneur sans offenser le diable, pour reprendre l'expression de Marion G. Romney. Le Sauveur a enseigné, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Comment perdons-nous notre saveur ? C'est entre autres en cessant d'être différent du monde. Dans l'Église, beaucoup dérivent dans la direction du monde, lui ressemblent de plus en plus et deviennent de plus en plus comme lui. Nous devons arrêter de dériver. Robert D. Ailes a dit, « Nous, saints des derniers jours, n'avons pas besoin de ressembler au monde. Nous n'avons pas besoin de nous divertir comme le monde. Nos habitudes personnelles doivent être différentes. Nos divertissements doivent être différents. En cette époque de relativisme moral, nous devons être prêts à prendre position et à dire, « Ceci est bien, cela est mal. » Nous ne pouvons pas suivre la foule. Bien entendu, je ne suggère pas que nous nous retirions dans le désert et que nous fermions notre porte-à-clés. Nous pouvons être dans le monde, aller à l'école, aller au travail, nous joindre à des organisations de la collectivité qui sont valables, etc. Mais nous devons rester attachés aux principes du Seigneur. L'un de mes amis est un médecin réputé. Il tient une rubrique médicale dans une publication nationale. Il y traite souvent de diététique. Il a un problème. Il a alors les beignets, qui sont délicieux, mais généralement qui ne sont pas considérés comme des plus diététiques. Pour résoudre ce dilemme, il a trouvé ce qu'il appelle sa théorie de la diététique des 80 et 20%. Elle consiste à dire que si l'on est très bon 80% du temps, on peut manger ce qu'on veut les 20% restants. Peut-être que ça marche pour l'alimentation, mais le principe des 80 et 20% n'est pas acceptable pour les jeux d'argent, la pornographie ou l'honnêteté. Mes frères et sœurs, sommes-nous parfois des membres de l'Église à 80 et 20% ? Pensez à la femme qui sanctifie le jour du sabbat, sauf quand elle a besoin de quelque chose au magasin. Ou à l'homme qui est honnête dans toutes ses affaires, mais qui ne peut résister à l'envie d'exagérer ses déductions fiscales parce que cela lui fait gagner plus de 1000 dollars. Ou au père de famille qui est gentil et doux avec sa femme et ses enfants, sauf quand il a eu une dure journée au bureau. Mes frères et sœurs, vendons notre résidence secondaire à Babylone. Soyons entièrement et non pas presque des saints des derniers jours. Dans la traduction de Joseph Smith de Luc 14, 28, le Seigneur dit, « C'est pourquoi, déterminez dans votre cœur de faire ce que je vais vous enseigner et vous commander. » J'aime l'expression « déterminer ». Mes frères et sœurs, je prie que nous soyons déterminés. Il y a de grandes bénédictions qu'on ne reçoit que lorsqu'on a complètement soumis son cœur à Dieu. Heber J. Grant a dit, Il n'y a qu'une voie qui mène à la sécurité pour les saints des derniers jours, et c'est la voie du devoir. Ce n'est pas le témoignage, ce ne sont pas les manifestations merveilleuses, ce n'est pas le fait de savoir que l'Évangile de Jésus-Christ est vrai, de savoir que le Sauveur est le Rédempteur, ou que Joseph Smith était son prophète qui nous sauvera, vous et moi. Mais c'est de respecter les commandements de Dieu, de mener la vie d'un saint des derniers jours. À présent, jeunes gens et jeunes filles, vous qui commencez à vous fixer des priorités dans la vie, souvenez-vous que la seule vraie sécurité dans la vie consiste à vivre les commandements. La sécurité financière et le statut social sont creux sans la droiture, je vous l'assure. Vous avez vécu avec votre Père Céleste dans une existence prémortelle. Vous y étiez avec lui. Votre esprit sait ce que c'est de vivre dans les sphères célestes. Vous ne pourrez jamais être vraiment heureux dans un cadre qui n'est pas céleste. Vous en savez beaucoup trop. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour vous, l'iniquité ne peut jamais être le bonheur. C'est formidable de pouvoir décider une fois pour toutes, tôt dans la vie, de ce que vous ferez et ne ferez pas concernant l'honnêteté, la pudeur, la chasteté, la parole de sagesse et le mariage au temple. Mes frères et sœurs, restez sur le chemin étroit et resserré. Non, restez au milieu de ce chemin étroit et resserré. Ne dérivez pas, n'errez pas. Ne touchez pas au mal, soyez prudents. N'oubliez pas, ne flirtez pas avec le mal. Restez à l'extérieur du territoire du démon. Ne donnez pas à Satan l'avantage de jouer à domicile. Le respect des commandements vous apportera le bonheur que trop de gens recherchent ailleurs. Nous avons la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, comme le disait Frère Nelson. Cette Église est la sienne. Le rétablissement a bien eu lieu. Il n'y a pas de raison de ne pas se donner tout entier. Je sais que Gordon B. Hinckley est le prophète du Seigneur aujourd'hui. Je suis reconnaissant d'être avec lui et je le remercie de ses enseignements, de sa direction et de son magnifique exemple de force. Je sais que Dieu vit. Je témoigne que Jésus est le Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Not long after our friend Carolyn Rasmus joined the faculty of Brigham Young University.
Pas très longtemps après le moment où notre amie Caroline Erasmus a rejoint le corps enseignant de l'université Brigham Young, un groupe de ses nouveaux amis l'avait invité à les joindre pour une randonnée un samedi dans les montagnes au-dessus de Provo. Caroline n'était pas membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais elle se sentait bien intégrée dans son nouveau cercle de connaissances. C'est avec enthousiasme qu'elle s'est jointe à eux pour l'ascension. Le soleil montait, les grimpeurs en faisaient autant dans la montagne. Puis, comme 10 heures approchaient, le groupe a commencé à chercher un endroit pour s'asseoir. Caroline a pensé, c'est formidable. Comment ont-ils su que j'avais besoin de repos? Et elle s'est aussitôt mise en devoir de trouver un endroit confortable pour se détendre. Mais les participants semblaient prendre ce repos particulièrement sérieusement. Certains sortaient des crayons et des bloc-notes, tandis qu'un autre allumait un transistor. Ce qui s'est produit après allait être un tournant de sa vie. Un de ses amis a dit, « Caroline, nous devons t'expliquer quelque chose. C'est le premier samedi d'octobre et pour nous, cela signifie non seulement un temps magnifique et les feuillages resplendissants de l'automne, mais aussi la conférence générale de l'Église. En tant que saints des derniers jours, où que nous soyons et quoi que nous fassions, nous nous arrêtons pour écouter. Alors, nous allons rester assis ici, parmi les chênes et les sapins, contempler la vallée en dessous de nous et écouter les prophètes de Dieu pendant 2 heures. 2 heures, a pensé Caroline. Je ne savais pas qu'il y avait des prophètes de Dieu encore vivants, et encore moins qu'il fallait les écouter pendant 2 heures. Elle ne se doutait pas non plus qu'ils allaient s'arrêter encore à 2 heures de l'après-midi pour 2 nouvelles heures, puis qu'ils l'inviteraient à allumer son poste de radio chez elle et à écouter pendant 4 heures le lendemain. La suite s'est passée comme on pouvait s'y attendre. Armée d'un exemplaire relié cuir des Écritures que ses étudiants lui avaient donné,
avec l'amour d'amis et de famille de la paroisse qu'elle a commencé à fréquenter, et des expériences spirituelles que nous souhaitons qu'aient tous les gens qui se frayent un chemin vers la lumière de l'Évangile, Caroline a été baptisée et confirmée membre de l'Église. Ce jour-là, la suite s'est passée comme on pouvait s'y attendre. Ce jour-là, en découvrant la conférence générale, assise tout en haut de la montagne qui surplombe BYU, Sœur Rasmus a vu se réaliser pour elle l'invitation prophétique d'Ésaïe. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Nous arrivons à la fin d'une autre merveilleuse conférence générale. Nous avons eu la bénédiction d'entendre les messages de nos dirigeants, et en particulier celui du président Gordon B. Hinckley, l'homme que nous soutenons comme l'oracle de Dieu sur la terre, notre prophète vivant, voyant et révélateur actuel. Comme l'ont fait les prophètes dans les dispensations, depuis Adam jusqu'à nos jours, d'une manière figurative, le président Hinckley nous a rassemblés dans une sorte d'équivalent mondial de la vallée d'Adam au Diaman. Il nous a témoigné son amour, nous a instruits et nous a donné sa bénédiction. Je pense qu'on peut dire sans risque que ce que les frères et les sœurs nous ont dit ce week-end, pendant cette conférence générale, aura un effet édifiant et, si besoin est, que cela changera la vie de chacun de nous, comme l'a fait pour Sœur Erasmus et des milliers d'autres qui, deux fois par an, répondent à notre cantique « Viens ». Écoutez la voix de Dieu. Le prophète a parlé. Pour exprimer mon témoignage et ma gratitude pour les messages et la signification de cette conférence générale, je vais suggérer au moins trois choses que ces rassemblements semi-annuels déclarent au monde entier. Tout d'abord, ils annoncent avec enthousiasme et sans équivoque qu'il y a de nouveau actuellement un prophète sur la terre et qu'il parle au nom du Seigneur. Et nous avons bien besoin d'être guidés ainsi. Notre époque est pleine de troubles et de difficultés. Nous voyons des guerres dans le monde et de la détresse chez nous. Tout autour de nous, nos voisins ont des peines personnelles et des chagrins familiaux. Des foules connaissent la peur et des problèmes de toutes sortes. Cela nous rappelle que lorsque ces brouillards de ténèbres ont enveloppé les voyageurs, dans la vision de l'arbre de vie de Lehi, ils ont enveloppé tous les gens présents, les justes comme les injustes, les jeunes comme les personnes âgées, les nouveaux convertis comme les membres anciens. Dans cette allégorie, tous ont connu l'opposition et la douleur, et seule la barre de fer, la parole de Dieu déclarée, peut les conduire vers la sécurité. Nous avons tous besoin de cette barre. Nous avons tous besoin de cette parole. Personne n'est en sécurité sans elle, et quand elle fait défaut, tous peuvent tomber dans des sentiers interdits et se perdre. Comme nous sommes reconnaissants d'avoir entendu la voix de Dieu et ressenti la force de cette barre de fer au cours des deux derniers jours de cette conférence. Sans que cela soit fréquent, il arrive, au fil des ans, que certains disent que les autorités, dans leurs déclarations, ont perdu le contact avec la réalité, qu'elles ne connaissent pas les problèmes, que certaines de leurs règles et pratiques sont démodées, ne valent plus à notre époque. Moi, qui suis le moindre des hommes que vous avez soutenu pour être témoin personnel de la manière dont nous sommes guidés dans l'Église, je déclare, avec toute la ferveur de mon âme, que jamais, ni dans ma vie privée, ni dans ma vie professionnelle, je n'ai côtoyé des personnes qui sont aussi au courant, qui connaissent aussi bien les problèmes qui se posent à nous, qui regardent si profondément dans le passé, qui restent si ouvertes sur l'avenir, et pèsent si attentivement et à l'aide de la prière tout ce qui se trouve entre les deux. Je témoigne que la compréhension de ce groupe d'hommes et de femmes sur les problèmes de moralité et de société dépasse celle de tout groupe de réflexion ou d'experts que je connaisse dans ces mêmes domaines sur la terre. Je rends un témoignage personnel que ce sont d'une grande bonté. Quel travail dur et vivent humblement. Ce n'est pas une petite affaire que l'Église déclare au monde qu'elle a des prophètes, des voyants et des révélateurs. Et nous le déclarons. C'est une véritable lumière qui brille dans un monde enténébré et elle vient de ses sources. Deuxièmement, chacune de ces conférences est un appel à l'action, non seulement dans notre vie, mais encore en faveur des gens qui nous entourent, ceux de notre famille et de notre religion, ainsi que des gens qui n'en font pas partie. Ce matin, le président Hinckley nous a rappelé de manière émouvante que c'est le 150e anniversaire des convois de charrettes à bras qui, alors que la conférence générale se rassemblait en octobre 1856, ici dans la vallée du lac Salé, chancelaient sur les derniers kilomètres dans les plaines gelées du Nebraska et n'allaient pas tarder à être bloqués dans les neiges infranchissables du Wyoming. Il nous a cité le message inspirant que le président Young a adressé au sein de la conférence générale. Allez et ramenez ces personnes qui sont en ce moment dans les plaines. Tout comme porter secours aux personnes en détresse était le thème de la conférence d'octobre 1856, c'est aussi le thème de cette conférence-ci, et de la précédente, et de la suivante au printemps. Ce ne sont peut-être pas les vents violents, les enterrements dans le sol gelé que nous aurons affrontés au cours de cette conférence, mais il y a toujours des nécessiteux, des pauvres, des fatigués, des découragés et des gens affligés, des personnes qui s'égarent dans les sentiers interdits que nous avons mentionnés plus tôt, et des multitudes de gens qui sont empêchés d'accéder à la vérité parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Tous sont là, les genoux qui chancellent et les mains languissantes, et le mauvais temps arrive. Ils ne peuvent être secourus que par les gens qui ont plus, savent plus et peuvent aider davantage. Ne vous souciez pas de demander où sont-ils. Ils sont partout, à notre droite, à notre gauche, dans notre quartier et sur notre lieu de travail, dans chaque collectivité, dans chaque comté et pays du monde. Prenez votre équipage et votre chariot, chargez-le de votre amour, de votre témoignage et d'un sac spirituel de farine, puis prenez la route dans n'importe quelle direction. Le Seigneur vous guidera vers ces personnes qui sont dans le besoin si vous embrassez l'évangile de Jésus-Christ qui a été enseigné au cours de cette conférence. Ouvrez votre cœur et vos mains aux personnes qui sont prises au piège de l'équivalent du 21e siècle de Martin's Cove et Devil's Gate. En faisant ainsi, nous répondons à la supplication répétée du Maître en faveur de la brebis, des drachmes ou des âmes perdues. Enfin, une conférence générale de l'Église est une déclaration au monde entier que Jésus est le Christ, que lui et son Père, le Dieu et le Père de tous, sont apparus au jeune Joseph Smith en accomplissement de la promesse d'autrefois que Jésus de Nazareth ressuscité rétablirait son Église sur la terre et qu'il reviendrait de la même manière que vous, les saints de Judée, l'avez vu aller au ciel. Cette conférence et toutes les autres conférences semblables sont une déclaration qu'il a condescendu à venir sur terre, y a vécu dans la pauvreté et dans l'humilité, y a souffert le chagrin, le rejet, la déception et la mort, afin que nous soyons sauvés de ces tourments, tandis que se présente notre vie éternelle, et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Cette conférence proclame à toutes les nations, familles, langues et peuples, la promesse messianique empreinte d'amour, que sa miséricorde dure à toujours. À vous tous, qui pensez que vous êtes perdus et qu'il n'y a plus d'espoir, ou qui pensez que vous avez agi trop mal pendant trop longtemps, à tous ceux d'entre vous qui vous souciez d'être bloqués dans les plaines hivernales de la vie et qui avez brisé votre charrette dans le voyage, cette conférence fait retentir le refrain incessant de Jéhovah : « Ma main est encore étendue. Il a dit, j'allongerai le bras pour eux. S'ils me renient, je serai miséricordieux envers eux. S'ils se repentent et viennent à moi, car mon bras est allongé toute la journée, dit le Seigneur Dieu des armées. Sa miséricorde endure éternellement et sa main est encore étendue. L'amour pur du Christ, la charité qui ne périt jamais, la compassion qui supporte tout, même lorsque toute autre force disparaît. Je témoigne de ce Jésus qui va vers les gens, qui secourt, qui est miséricordieux, de cette Église qui est son Église rétablie, basée sur son amour rédempteur, et que, comme il est déclaré dans le livre de Mormon, des prophètes envoyés par le Seigneur vinrent parmi le peuple, prophétisant. Et il vint de nouveau des prophètes dans le pays. Je témoigne que le président Hinckley est à tout point de vue un tel prophète, de la tête aux pieds, quelqu'un dont nous chérissons la vie et la voix. Et pour qui nous avons tant prié et qui conclura à présent ce rassemblement semi-annuel. Pour toutes ces bénédictions, et bien d'autres encore, j'exprime personnellement mes remerciements au moment de cette conférence générale. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
C'est très difficile de déclarer que cette conférence, cette session sont terminées. À la fin de cette conférence, nous remercions sincèrement le chœur du tabernacle, le chœur du centre de formation des missionnaires de Provo, le chœur de la prêtrise de Melchizedek de Brigham City, ainsi que les directeurs de chœur, les organistes, pour la belle musique inspirante. Nous remercions également toutes les personnes qui ont participé à ces sessions de différentes manières. Gordon Binkley, notre prophète bien-aimé, sera le dernier orateur de cette session. Après le discours du président Hinckley, le chœur chantera « Seigneur, merci pour le prophète ». Après le discours du président Hinckley, le chœur Donald Staley des 70 fera la prière de clôture, le président Hinckley. Mes chers frères et sœurs, nous avons eu une très belle conférence. C'est toujours miraculeux. Rien ne se compare à cette conférence. Être rassemblés ici dans ce magnifique bâtiment et savoir que tout ce que nous disons est transmis dans le monde entier afin que les gens sur tous les continents adorent Dieu ensemble, le Dieu vivant. C'est réellement un miracle. Tous ceux qui ont parlé l'ont fait de manière magnifique. Nous aurions souhaité avoir le temps d'entendre toutes les autorités générales. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Les représentants des organisations auxiliaires nous ont inspirés par leur message. Les prières nous ont également inspirés. La musique était magnifique. Nous sommes reconnaissants de cet extraordinaire centre de conférence où nous réunissons et de la technologie qui a permis que nos paroles soient portées par toute la terre à nos membres dans de nombreux pays et sous de nombreuses latitudes. Nous souhaitons que la paix règne sur la terre. Et nous prions constamment pour qu'elle vienne. à présent, nous vous exprimons notre amour et vous donnons notre bénédiction. Que l'Esprit du Seigneur demeure dans votre foyer, que l'amour régisse vos relations familiales. C'est là notre prière. Nous vous disons au revoir et à dans 6 mois, au nom sacré de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous exprimons en son nom aussi notre amour et vous donnons notre bénédiction. Amen.
Our Father in heaven,
Père Céleste, nous sommes nous aussi très reconnaissants de notre prophète que nous aimons si tendrement. Aide-nous, Père, maintenant à faire ce qu'il nous a demandé de faire et de suivre les conseils des prophètes et des apôtres. Nous sommes profondément reconnaissants d'être membres de ton Église, d'avoir la possibilité de connaître les bénédictions et la joie qui nous sont données. Aide-nous, Père, à emporter de cette conférence dont nous avons besoin et d'intégrer ces enseignements à notre vie afin d'être nous aussi prêts à servir les autres quand le besoin s'en fera sentir. Nous sommes reconnaissants de toutes les bénédictions que l'Évangile nous apporte. Nous te demandons de continuer de bénir le président Hinckley. Aide-nous à suivre leurs conseils, les siens et ceux des apôtres. C'est là notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous
venez d'assister à la 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales, les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur de tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Elmville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.